France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Elle fait de multiples unes de journaux et magazines, ça ne vous a évidemment pas échappé. Vous l'avez entendu ce matin sur Inter, mais aussi sur RTL, France 5, dans la grande librairie, France 2 hier soir. Elle sort un livre mondialement traduit dans 22 langues. Elle était dans le New York Times, le New Yorker, El País, la BBC. Au Royaume-Uni, des extraits seront lus de ce livre dans une salle comble par Kate Winslet et par Christine Scott Thomas. C'est Emma Thompson qui lit l'audiobook. En Allemagne, une salle de 1000 personnes a été prévue, c'est dans les jours qui viennent, pour l'entendre. Ce traitement médiatique pour un récit est rarissime, à moins d'être Michelle Obama. Et encore, on parle de Gisèle Pellicot, 73 ans, une femme que la vie ne devait jamais emmener là où elle est en ce moment, mais qui s'est sentie une responsabilité devenue proportionnelle à ce qu'elle a vécu, des viols répétés pendant 10 ans par 53 hommes qui ont pu être identifiés, mais il y en a plus, une femme sédatée, chimiquement soumise et filmée par son mari. On la qualifie désormais d'icône, elle a du mal avec ce mot, elle a aimé éveilleuse que Michel Perrault a choisi pour elle, et elle dit, celle qui n'a jamais milité, jamais revendiqué, mais dont le visage est désormais sur les murs, elle dit qu'elle est féministe à sa manière. Car si cette affaire nous a chamboulés, ce sont surtout les choix de cette femme qui nous ont chamboulés. Le refus du huis clos, bien sûr, accepter que son histoire ne lui appartienne plus entièrement, mais nous appartienne à toutes et à tous. Elle nous montre aussi son chemin de reconstruction qui passe par la joie et le refus de jeter intégralement les 50 ans qu'elle a partagé avec Monsieur Pellicot, comme elle le dit. Elle dit « Je suis cette femme, je ne suis pas une femme », pour bien montrer que son chemin n'est pas forcément celui des autres. Et c'est cela que nous allons essayer d'explorer ensemble, maintenant que, au-delà de son procès, c'est toute son histoire qu'elle nous livre. Qui est Gisèle Pellicot désormais pour nous toutes et pour nous tous? Qu'est-ce qu'on fait surtout avec ce qu'elle nous donne? C'est le téléphone sonne, les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Je suis contente qu'on ait un monsieur pour commencer. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir Fabienne. Bon, merci d'avoir... Excusez-moi pour la qualité de ma voix. Bon, je vais vous remercier d'avoir sélectionné ma question. Et puis, comme d'habitude, bon, bah, souhaiter longue vie à Radio France, enfin à la Maison Ronde. Maintenant, j'ai appris là avec tristesse que Robert Duval était décédé.
Non mais Olivier, nous emmenez pas si loin, je vous en supplie. Est-ce qu'on peut revenir à Gisèle Pellicot?
Ouais, ouais. Juste un truc, et il a tourné dans le film de Coppola qui s'appelle Rain People, et je vous conseille de le voir si vous avez l'occasion.
On le fera, mais, Olivier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut revenir à notre sujet?
Oui, bien sûr. Alors à propos de Gisèle Pellicot, bon, j'ai pas du tout suivi le procès, etc. Non pas que je sois insensible aux agressions sexuelles dont sont victimes les femmes, enfin les gens en général, mais ce que je crains pour elle, et c'est ça qui... je ne sais pas comment elle est en ce moment, mais j'ai peur qu'on l'instrumentalise et qu'on la réduise à son statut de victime, et que quand on entend parler de Gisèle Pellicot, on dit « Ah oui, c'est cette femme que son mari a fait violer par une ribambelle d'individus. » Et je veux dire, je ne sais pas comment elle vit ça, et il ne faudrait pas qu'on la réduise à ça, et j'ai peur qu'elle soit, instrumentalisée, et qu'on en oublie la personne, et que finalement, Gisèle Pellicot, on l'aime pour ce
Olivier,
qu'elle aime et non pas pour ce qu'elle a
fait. Merci beaucoup, Olivier. On a entendu ce que vous dites et c'est une vraie bonne question. On va essayer d'y répondre ensemble, autour de cette table, pour discuter ensemble. Il y a Judith Pérignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes autrice, vous êtes aussi celle qui a coécrit ou aidé à écrire le livre de Gisèle Pellicot. Qu'est-ce que vous préférez qu'on dise d'ailleurs? Coécrit le livre de Gisèle Pellicot qui s'appelle Et la joie de vivre. Ça sort officiellement demain et c'est chez Flammarion. Il y a Anne-Cécile Malifère qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente fondatrice de la Fondation des Femmes. On va essayer d'aller sur le terrain de la question d'Olivier. Je vais vous poser la question à toutes les deux que je posais tout à l'heure en introduction. Qu'est-ce qu'elle nous donne et qu'est-ce qu'on en fait, cet héritage que nous donne Gisèle Pellicot? D'abord, vous qui la connaissez bien désormais, Judith Pérignon, est-ce qu'à un moment, vous avez la même crainte qu'Olivier, qu'elle peut être dépassée par ce qu'elle représente, plus par ce qu'elle est, ou est-ce qu'elle est plus forte que ça ?
Elle est beaucoup plus forte que ça. D'ailleurs, le livre sur lequel nous avons travaillé et qui sort demain, c'est le livre d'une femme éveillée. Mm-hmm. C'est le livre d'une femme qui n'est plus cette femme endormie, silencieuse, maltraitée, poupée de chiffon, sac à homme. Non, c'est une femme qui va vous raconter toute son histoire, d'où elle vient, mm-hmm. pourquoi elle est tombée amoureuse de Dominique Pellicot, qu'est-ce que ça a été ce couple, qu'est-ce que ça a été de voir sa vie basculer. Et justement, la femme martyre, l'affaire, dans ce livre et dans ce que Gisèle a voulu transmettre, n'est pas la part principale
non,
du livre.
Vrai.
C'est vous allez comprendre pourquoi elle est toujours debout. Et ça, c'est une force qui s'est créée en elle il y a bien longtemps. Et c'est un portrait vraiment dont je suis très fière et très heureuse d'avoir participé à l'écrire, parce que c'est un exemple féminin.
Ce qu'elle laisse de nous, l'héritage, est-ce qu'il y a un héritage ? Est-ce qu'il faut déjà construire là-dessus, Anne-Cécile Maillefer, l'héritage Pellicot ? On va venir sur ce qu'est son féminisme, que j'ai trouvé les passages les plus émouvants, en fait, je vais vous dire, dans ce livre, moi, comment elle s'est construite. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça, nous, en fait, pour éviter de le gâcher, finalement ?
Alors sur l'héritage, on va voir comment ça continue, mais en tout cas pour le moment, c'est sûr qu'elle est très importante. Elle est très importante parce que on est vraiment sur une figure d'une femme qui est ordinaire, c'est-à-dire ça peut vraiment être chacune d'entre nous, ça peut être nos mamans, ça peut être voilà. Et puis il lui arrive ça, et ce qu'elle en fait. Et moi, je l'ai trouvé, alors je n'ai pas eu le plaisir encore de lire le livre, donc je le découvrirai demain, j'irai l'acheter évidemment. Mais en tout cas, ce que j'ai déjà pu entendre d'elle dans les différentes émissions qu'elle a pu faire récemment, aussi, on voit vraiment que c'est une femme qui est très intelligente, qui est effectivement très forte, et qui réussit à nous montrer que, et à montrer à toutes et à tous qu'être une victime, ça ne veut pas dire ne pas être autre chose aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours en réalité à la fois une victime, et à la fois une héroïne, et à la fois une survivante, et à la fois, on peut être plusieurs choses à la fois. Et on est dans une société où effectivement on a toujours envie d'être, les gens préfèrent nous réduire à une seule chose, et c'est pas le cas. Et moi j'ai hâte de voir ce livre pour voir effectivement toutes les différentes facettes de Gisèle Pellicot.
Et c'est cette phrase que je citais tout à l'heure, Judith Perrignon, « Je suis cette femme, pas une femme ». Elle a choisi un chemin, elle s'y tient, elle est dessus, visiblement elle y est bien droite, mais c'est le sien, c'est pas un chemin universel. Elle n'est pas en train de nous montrer un chemin qui serait un chemin universel, loin de là.
Ah non, elle prétend pas tout savoir, elle s'est préoccupée d'abord de s'en sortir, et d'abord, ce chemin, il a plusieurs étapes. Quand sa vie s'est effondrée, elle a d'abord senti, effectivement, le poids de la honte, l'effondrement de tout, et elle a eu besoin d'être seule. Il y a toute une phase où elle s'éloigne, comme ça, elle part sur l'île de Ré, une île, c'est déjà quelque chose, une île, c'est se détacher de la foule, se détacher même de sa famille, elle ne veut pas vivre chez ses enfants, elle veut être seule, chercher en elle la force. Et puis après, deuxième phase, quand elle a renoué peut-être avec une force ancienne en elle, elle va commencer à rencontrer des gens, à retomber amoureuse, et soudain à se dire « je ne veux pas être toute seule dans cette salle d'audience face à mes violeurs, je vais ouvrir les portes ». Donc, à chaque fois, il y a eu des étapes. C'est pas une ligne toute droite. Et à chaque fois, au départ, il y a une intuition chez elle très forte.
La fin du huis clos, c'est intéressant. Le moment où elle décide qu'il n'y aura pas de huis clos, elle comprend quelque chose que je crois que je n'avais pas compris avant de la lire. En fait, elle dit « Mais en fait, je vais me retrouver coincée au milieu de tous ces regards-là. Ce sera tous ces regards et moi toute seule. Alors que si j'ouvre la porte, il y aura 1000 autres regards pour moi et beaucoup moins pour eux. » Eh bien, je reconnais, Anne-Cécile Maillefer, que moi, j'y avais pas pensé avant, en fait. Quand j'ai entendu l'ouverture des portes, en quelque sorte, évidemment qu'elle a raison pour ces raisons-là.
Oui, oui, alors c'est un choix. Toutes les victimes ne font pas choix-là, mais en tout cas, c'est sûr que la manière dont est construite la justice aujourd'hui, on assiste parfois à ce qu'on appelle une victimisation secondaire, c'est-à-dire des personnes qui sont victimes et qui sont du coup dans les procès parce qu'elles sont victimes et qui se retrouvent un peu sous le feu des avocats de la défense qui vont venir questionner le consentement, qui vont venir questionner le moindre détail, les habits, et qu'est-ce qu'elle a dit, et qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et donc, en quelque sorte, on a des victimes qui se sentent coupables dans ces salles d'audience. Et ça peut être extrêmement douloureux. Et moi, je comprends ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, quand on ouvre les portes du tribunal, quand en fait on montre aussi à voir, c'est non seulement, ça fait qu'il y a tout d'un coup des tas de personnes qui sont aussi de son côté. Et puis aussi, autre chose, c'est que ça permet, et ça c'est, je veux vraiment la remercier d'avoir ouvert les portes du tribunal, parce que ça nous a permis à toutes et à tous aussi de nous enrichir, de comprendre apprendre quelque chose de ce procès. Et c'est pour ça que c'est si important qu'il y ait ces procès, c'est si important qu'ils puissent continuer d'exister, en particulier sur les violences sexuelles, parce qu'en fait, la société, elle doit continuer à mûrir, à grandir, à comprendre, à aller vers une société de moins en moins violente et de moins en moins machiste. Et pour ça, on a besoin de procès et on a besoin de la médiatisation de ces procès pour qu'on puisse toutes et tous en apprendre quelque chose.
On se posera la question d'ailleurs de savoir si on parlera dans l'avenir de 72, le procès de Bobigny, 78, le procès d'Aix-en-Provence et 2024, le procès d'Avignon. Est-ce que des gens ont dit ça, à votre avis, ou pas ?
On n'est pas loin de le dire, oui. Je pense qu'on est sur un tournant, oui.
Voici Lucie qui est avec nous. Bonsoir, Lucie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Lucie.
Je voulais dire que pour moi, le message principal que faisait passer Gisèle Pélicaud, c'est qu'elle apprend à tous les hommes à ne pas sous-estimer les femmes, même si c'est leur femme, même s'ils leur ont fait des enfants, même s'ils les connaissent depuis des décennies, parce que si jamais ils les trahissent ou abusent d'elles ou les violentent ou leur fait les pires horreurs comme a subi cette femme-là, ben c'est sûr que son ex-mari ne se doutait pas de jusqu'où elle allait aller pour dénoncer tout ça, de la force et de la fierté qu'elle aurait. Et je suis sûre que s'il savait de quoi elle avait été capable, il aurait réfléchi à deux fois avant de faire ça. Et c'est un très bon message pour tous les hommes. Il ne faut pas qu'ils sous-estiment les femmes, parce qu'on est capable de beaucoup de choses.
Merci beaucoup, Lucie. À votre avis, est-ce qu'elle était sous-estimée, Judith Pérignon, par son entourage et par ce qui est désormais son ex-mari, elle l'appelle Monsieur Pélicaud, ou est-ce qu'elle a appris au fil du temps, en fait, à prendre sa place, tout simplement ?
Alors, je pense que c'est intéressant parce qu'on a vraiment essayé de raconter le couple aussi dans ce livre, mm-hmm. le couple hors affaire, c'est-à-dire dans sa banalité, sa quotidienneté. Et moi, j'ai trouvé très intéressant de pousser aussi le questionnement là-dessus avec elle, parce que apparemment un couple heureux qui a eu ses hauts, ses bas, etc. Mais en fait, où Gisèle, elle est de cette génération des femmes qui a connu, elle a 20 ans dans les années 60, donc elle entend ce message. Elle n'est pas... elle l'entend et elle va en profiter sans en être une militante, mais elle est de ces femmes qui veulent une famille, se marier, avoir des enfants, mais qui va travailler, qui avec le sentiment de son autonomie, qui va avoir une carrière beaucoup plus constructive et beaucoup plus solide que celle de son mari, absolument. Qui va faire vivre la maison.
Elle l'écrit d'ailleurs, c'est elle qui devient solide. C'est la phrase exacte, je deviens solide.
C'est l'élément solide. La famille, lui, il a une carrière beaucoup plus compliquée. Ils vont vivre dans l'endettement, le surendettement. Et c'est elle qui fait tenir la famille. Et qui dit non, qui dit beaucoup de choses à son mari quand elle n'en a pas envie. Et pourtant, dans ce système-là, qui est plus moderne que ce que vivaient les générations d'avant, il reste quelque chose de très prégnant et qui est dans cette histoire et dans ces mots. C'est cette façon qu'elle a de lui pardonner beaucoup, de s'inquiéter pour lui, de lui dire non, mais en même temps de protéger tout le monde. Et là, on retrouve un travers, si je puis dire, féminin, c'est-à-dire de cette altérité, cette façon de se sentir forte et en même temps en charge de tout le monde. Donc il y a les deux, dans cette famille qui ressemble à beaucoup de familles.
C'est intéressant ce que dit Judith Pérignon, Anne-Cécile Maillefer, sur l'éveil, la conscience du féminisme, l'éveil à quelque chose, mais sans vouloir y toucher, il y a ce passage moi que j'ai trouvé magnifique, elle dit « Nous sentions comme l'époque bougeait, mais nous n'étions pas tout à fait sûrs que ça nous concernait. Du bruit et des noms nous parvenaient depuis le centre de Paris, et c'est vraiment intéressant parce qu'ils habitaient à Doménil, hein, le centre de Paris, donc c'est un jet de pierre. Du bruit venait du centre de Paris, nous évoquions les couples Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ou Louis Aragon et Elsa Triolet, nous connaissions le deuxième siècle sans toutefois chercher à le lire. » Donc en fait, comme si on touchait du doigt, et elle le dit à plusieurs reprises, elle le dit pareil pour la pilule, etc. Je sais que ça existe, mais je crois que c'est pas pour moi. C'est vraiment les mots d'une génération, ça, en fait.
Oui, alors d'une génération, il y a aussi beaucoup de femmes de sa génération qui étaient extrêmement mobilisées, mais en tout cas, c'est sûr que dans tous les grands changements de société, il y a évidemment des effets un peu de ricochet, des effets d'onde comme ça. Il y a d'abord un noyau très mobilisé, très conscient, et puis en fait, le reste des personnes sont touchées un peu au fur et à mesure, et puis elles ont leur vie à vivre, elles ont plein de choses à faire, et donc elles sont pas forcément, si elles ne sont pas directement concernées, elles n'ont pas forcément tout le temps et la conscience pour s'y plonger complètement. Et d'ailleurs, là, a priori, c'est vrai que son éveil féministe vient évidemment du fait qu'elle est là maintenant, en ayant été directement victime. Elle comprend mieux, je pense, ce que disent les féministes. Beaucoup de femmes, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de femmes. C'est à partir du moment où on est directement touché par quelque chose, alors on comprend mieux, on cherche cherche à s'expliquer. Et donc, on lit les féministes, on comprend mieux les analyses féministes, parce qu'on se dit, mais pourquoi moi ? Ben, en fait, c'est pas toi toute seule, c'est beaucoup de femmes. Et en fait, si ça arrive, eh bien, c'est aussi parce qu'il y a tout un système. Et ça permet, parce qu'on a besoin de comprendre quand on est victime de violence, pourquoi ? Et alors, tout d'un coup, les féministes nous aident à, à comprendre, en fait, pourquoi, pourquoi nous sommes victimes. Et dans les raisons pour être victime, une chose que moi, j'ai trouvée très très intéressant dans ce qu'elle a dit dans les différentes interviews que j'ai pu lire, c'est cette idée que c'est parce qu'elle était insoumise en quelque sorte, c'était pour soumettre une femme insoumise, et je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental à comprendre dans les violences masculines.
C'est un mot c'est de que... Dominique Pélicaud.
Ouais. Pardon ?
C'est Dominique Pélicaud qui a dit qu'il avait soumis une femme insoumise.
Ah pardon, voilà, eh ben, je l'ai entendu dire ça dans une interview à la Grande Librairie.
Mais ça rejoint ce que vous dites, quand on comprend à quel point elle s'est, elle, solidifiée pendant que lui n'arrivait pas à trouver d'ancrage qui partait d'un boulot à l'autre. Et ce que j'ai entendu en lisant ce livre, Judith Pérignon, c'est effectivement, c'est ce que dit Anne-Cécile Maillefer, on comprend qu'il se passe, on sait que c'est dans l'air, on ne l'a pas exactement chopé, mais on sait que c'est dans l'air, que ça existe. Et donc dans son comportement, dans sa vie de tous les jours, elle saisissait ces choses-là. Quand elle décide de partir, évidemment, moi j'ai trouvé très joli le moment où elle s'installe toute seule et elle découvre ce que c'est que de vivre toute seule, et elle adore ça. Parce que cette femme, comme plein d'autres, là aussi, dans cette génération, sont passées directement des parents au mari. Et là, subitement, elle le dit d'ailleurs comme elle le dit comme une étudiante qui vient d'avoir sa première chambre. Hein, je me fais à manger ce que je veux, je me couche à l'heure que je veux. C'est vraiment comme ça qu'elle le vit.
Oui, c'était un très beau moment parce que c'est Noël.
Ouais.
C'est Noël et du coup, elle va rester dans cette petite maison qu'elle occupe sur l'île de Ré. Elle ne va pas rejoindre ses enfants, ses petits-enfants. Elle a besoin d'être seule. Et effectivement, ça rejoint cette chambre à soi de Virginia Woolf. C'est ce moment où je ne me préoccupe plus de personne d'autre que de moi. Et j'ai envie d'être toute seule. Même, je vais grignoter. Je vais pas cuisiner beaucoup. Je vais grignoter, me mater une série et me mettre en boule sur le canapé. Et ça, toutes les femmes le savent. Il y a un moment quand les enfants ne sont pas là, ou ils sont en vacances, ou le mari n'est pas là.
Ouais.
Et je ne pense qu'à moi. Et ça fait du bien.
C'est sûr que ça fait du bien. On y reviendra, parce qu'il y a des moments importants aussi où elle aimerait tout de suite faire des choses. Et puis elle n'ose pas, notamment vis-à-vis de ses enfants d'abord. C'est vraiment une histoire d'émancipation que celle de Gisèle Pélicaud. Vitesse de l'éclair, hein, en 5 ans. Mais c'est une histoire d'émancipation. On en parle avec Judith Pérignon, qui est journaliste autrice, qui a coécrit le livre de Gisèle Pélicaud qui s'appelle « Et la joie de vivre » publié chez Flammarion, et avec Anne-Cécile Maillefer qui est présidente fondatrice de la Fondation des Femmes.
France Inter, le 18-20, 01 45 24 7000.
Et au 01 45 24 7000, il y a vous, Katia, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Katia.
Merci de m'accueillir et puis vive Radio France.
Merci beaucoup.
Je vous appelle parce que je me souviens de l'époque où à la radio j'écoutais les récits, les rapports du procès Pélicaud, et ça me touchait énormément. Et à mes côtés, il y avait mon compagnon qui s'est toujours affirmé féministe. Et puis au bout d'un moment, je ne le voyais pas au fil des jours, je ne le voyais pas réagir. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais voilà, c'est quand même horrible. Et il m'a dit, mais je m'en fous, moi, de l'affaire Pélicaud. Ça m'a séché. Et puis aussi, en parlant avec des hommes comme ça, dans la rue, au marché, à droite, à gauche, en fait, j'ai pas senti de préoccupation particulière de leur part, si ce n'est de dire que bah, les hommes ne sont pas tous comme ça. Et du coup, j'ai trouvé l'histoire effroyable je pense, en fait, je me dis, mais à 25 km autour de la ronde, c'est qui les 70 ? Parce que je pense que les 70, ils sont autour de nous, en fait. Voilà.
Katia, merci beaucoup pour votre témoignage. Anne-Cécile Maillefer, c'est ce qui a tenu pendant toute la durée du procès, et même après, d'ailleurs, ce questionnement-là.
Et les hommes.
Et les hommes, absolument.
Oui, oui, c'est d'ailleurs, moi, je pense, une des choses les plus intéressantes dans ce procès, avec le fait que c'est un procès de viol conjugaux. Et ça, c'est très très intéressant aussi, parce que du coup ça brise un tabou. Mais la seconde chose qui est très intéressante dans ce procès, c'est effectivement les hommes. Alors c'est Manon Garcia qui en a fait un livre extrêmement intéressant aussi, la philosophe. C'est vrai que se pose la question, ce procès, c'est effectivement comme c'est un nombre très important d'hommes qui ont des profils très différents, et du coup ce qui les relie tous, c'est à la fois cette cet attrait morbide pour le viol d'une personne inanimée et que ce sont tous des hommes, c'est vrai que ça pose une question immense. Et moi, c'est vrai que j'aurais préféré voir plus d'hommes, effectivement, et voir des mouvements d'hommes aussi nous rejoindre de manière plus forte. Il y en a eu quand même, hein, on a fait ces rassemblements Place de la République, etc., en soutien à Gisèle Pélicaud, mais on aurait aimé voir, voir plus d'hommes aussi nous rejoindre et continuer à se battre à nos côtés, dans un souci humaniste, en fait, de se dire que ça n'est pas possible que des individus, des citoyens, des citoyennes françaises, donc des humaines comme moi, subissent ce genre de choses. Et moi, en tant qu'homme, je ne m'y résignerai pas. Et le fait de ne rien dire, le fait de faire un peu profil bas, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, en quelque sorte, le silence autour des violences sexuelles, le tabou autour de ces violences sexuelles, l'impunité aussi qui règne, parce que Gisèle Pélicaud a beaucoup de chance d'avoir eu un procès et d'avoir vu tous ces hommes condamnés, mais il n'y a que 1500 hommes condamnés par an en France pour viol, alors qu'il y en a quasiment 100 000 par an. Donc on voit qu'il y a... Mais donc du coup, ces hommes... en quelque sorte, tous les hommes profitent en quelque sorte de cette omerta, de ce tabou, de la peur que nous avons, nous les femmes, à rentrer chez nous le soir, du fait qu'on, qu'on fait attention à comment on s'habille, à comment on parle. En fait, en quelque sorte, il y a quand même un système qui se tient et un système dont profitent tous les hommes, même s'ils ne sont pas tous évidemment des violeurs et bien heureusement. Et c'est vrai qu'on aurait pu préférer voir un peu plus de mobilisation masculine autour de ça.
D'autant qu'elle dit, elle, Judith Pérignon, elle dit, c'est joli quand elle le raconte, elle dit, je ne suis pas féministe radicale, donc le sous-entendu, c'est de dire, mais moi, j'accueille les hommes, y compris dans cette réflexion-là, y compris dans ma reconstruction, y compris dans tout ce chemin.
Oui, elle a la question des hommes a vraiment été posée à l'occasion du procès, et Gisèle n'est pas du tout du genre à opposer les hommes aux femmes, et elle tient à le dire, et tout en comprenant complètement que cette histoire-là mérite de poser cette question. Oui. Faut voir comment elle raconte les regards de ces hommes alors qu'ils sont dans la salle des assises, c'est-à-dire qu'ils sont sur le point d'être jugés et ils n'ont toujours pas mesuré ce qu'ils ont fait. Ils la toisent du regard, ils soutiennent son regard. Ils sont en toute puissance encore, alors que vraiment là, ils sont dans la salle d'assises et ils estiment que de quoi se mêle-t-elle. Et c'est fascinant. Et moi, je me souviens au procès en appel qui a eu lieu à Nîmes à l'automne dernier, quand ils ont passé les vidéos, il n'y avait plus qu'un seul type qui faisait appel. Moi, j'étais pas très loin. Et il regardait ces vidéos fasciné encore. Mais fasciné par quoi? Par son érection, tout simplement. Et donc, on se disait, mais... Il faut qu'un monde, pour qu'il y ait autant d'hommes qui réagissent comme ça, il faut qu'il y ait une société qui leur permette de penser comme ça.
Un seul a fait appel. Hein. Enfin, en tout cas, il y en avait un peu plus après le procès. Ils se sont désistés les uns après les autres. Un seul a fait appel et a fini par être condamné à 10 ans. Il avait été condamné à 9 ans en première instance. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour celui-ci. Voici Frédéric qui est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Frédéric.
Je voulais réagir par rapport à un acteur ou des acteurs de cette affaire que sont les hommes donc suspects, enfin condamnés. À côté de cette affaire-là, je reste en état de sidération par rapport à cette organisation, appelons ça une organisation d'une cinquantaine d'hommes qui ont commis ces actes. Je reste à la fois épouvanté et complètement en sidération. Je ne comprends pas comment telle organisation a pu être montée. Et par-dessus ça, j'aurais voulu, ce que vos intervenantes ont dit un petit peu précédemment, que d'autres hommes puissent beaucoup plus soutenir massivement les victimes, Gisèle Pélicaud, mais aussi toutes les autres victimes de cette affaire, pour que ce ne soit pas, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, qu'une affaire de femmes. C'est l'affaire de la société, c'est l'affaire de tout le monde. Mais voilà, moi, ce qui m'a surtout surpris et vraiment choqué, c'était cette organisation masculine qui était bien huilée, visiblement, pour laquelle j'en reviens toujours pas. En fait.
Merci de votre témoignage et de votre participation. Frédéric, elle le dit d'ailleurs, Judith Pérignon, dans le livre Gisèle Pélicot, la raison pour laquelle elle ne pardonne à personne, c'est précisément parce qu'il n'y en a pas un. Et y compris ceux qui se sont arrêtés au pas de la porte, il n'y en a pas un qui, en quittant le pas de la porte, a été d'abord chez les flics en disant « il se passe un truc dingue dans ce pavillon-là ». Il n'y en a pas un. Et ça, pour le coup, elle l'a encore en travers de la gorge et on peut le comprendre.
Oui, et même quand certains ont fini par demander pardon à la fin de l'audience, elle a refusé.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il fallait réagir au moment où il pouvait lui éviter ce qui lui est arrivé.
Et ce que dit notre auditeur Anne-Cécile Maillefer, comment cette organisation peut exister, je comprends ce qu'il nous dit, parce que c'est pas une organisation, c'est quand même dingue, c'est aussi bête qu'un site internet et des gens qui viennent sonner à la porte. Ça parle aussi d'impunité quand c'est si facile.
Oui, complètement. En fait, il y a une sorte de camaraderie masculine autour de la commission de violences faites aux femmes, et violences sexuelles en particulier. Là, c'est un exemple très fort, mais c'est aussi le cas lors de cette orgie, soirée gangbang, et vous avez connaissance de ces procès dans le porno, French Bukkake, etc. Ce sont des hommes qui, par centaines, viennent violer des femmes qui sont sur des palettes en bois, dans des hangars désaffectés en région Île-de-France, ou d'ailleurs dans le 15e arrondissement de Paris. Et puis ce sont ces hommes aussi qui vont se réunir, ces dizaines de milliers d'hommes qui se réunissent dans des groupes Facebook dans lesquels ils échangent des photos volées de leurs partenaires et ou de femmes qu'ils ont pu croiser, sur lesquelles ils balancent d'innombrables insultes, sur lesquelles ils se masturbent, etc. Ils sont 10 000, ils sont 20 000, ils sont 70 000. En Italie, vous aviez ce groupe Facebook comme ça, où vous aviez des hommes qui diffusaient des photos de leurs femmes, de leurs sœurs, de leurs compagnes, et ils étaient des dizaines de milliers, pas un ne prévient les autorités. Donc oui, ça nous met, nous les femmes, dans une situation où tout d'un coup, en fait, on nous a bernés un petit peu depuis petite, en nous disant que voilà, il y avait des chevaliers servants, qu'on allait être sauvés grâce à ce prince monté sur son cheval blanc. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne viennent pas effectivement à notre secours, voire même organisent notre dégradation, et ils le font ensemble. Et on voit que dans ces réunions, en fait, autour des violences faites aux femmes, eh bien, en fait, entre eux, il n'y a plus de classisme, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'antisémitisme. Il y a quelque chose qui les relie, qui est encore plus fort et qui leur permet de faire corps entre hommes. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est abyssal. En fait, la haine des femmes, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, malgré mes dizaines d'années d'engagement féministe, j'ai toujours du mal à comprendre, et je pense que je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi ils nous détestent autant.
Mais j'ai trouvé ça assez frappant lorsqu'elle nous explique, Gisèle Pélicot, qu'elle a décidé d'ouvrir les portes et qu'il n'y aurait pas de huis clos. Elle dit aussi, peut-être que je n'aurais pas pris cette décision si j'avais 20 ans de moins.
Oui.
Et pourquoi, à votre avis, ça aurait été plus difficile pour elle si elle avait 20 ans de moins?
Parce que justement, c'est... Elle aurait donc eu 50 ans, elle aurait été encore prisonnière du regard des autres. Ce qu'elle explique, c'est que peut-être qu'à 70 ans, on est beaucoup plus détaché du regard, du désir des autres. Et là, on retrouve tout ce conditionnement féminin, c'est-à-dire, et c'est un passage qu'on a écrit sur, au fond, la femme, quand elle va au travail, qu'est-ce qu'elle va mettre ce matin, la jupe, le pantalon. Le regard de l'homme sur la femme... qui n'est plus si jeune, qui vieillit, à quel moment ne vont-ils plus me regarder? Enfin, tout ça, elle, en fait, sans l'avoir formulé, est en elle, est en nous. Et quand elle m'a dit cette phrase, mais peut-être que 20 ans plus tôt, je ne l'aurais pas fait, j'ai senti monter tous ces sujets. Et donc, on a écrit ce passage comme ça, parce que dans ce choix-là, il y a aussi le choix d'une femme âgée qui se dit « je suis sortie, enfin, du jugement masculin
». C'est aussi quand on pense à ça qu'on entend, il y a eu un certain nombre de discours depuis qu'on sait que ce livre va sortir et surtout qu'il s'appelle Et la joie de vivre. Il y a aussi des questionnements autour de... Et c'est vraiment pour ça que je tenais tout à l'heure à cette phrase qui dit « je suis cette femme et pas une femme ». Mais on entend monter des choses qui disent « mais elle a de la chance » et pardon, j'y mets un million de guillemets. Elle a cette espèce de... elle est un peu cette victime idéale à laquelle on peut se référer. toutes les femmes ne peuvent pas servir de référent, en fait. Et j'entends quand les jeunes féministes nous disent, si cette femme avait été de couleur ou migrante, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas eu d'histoire Pellico. Évidemment, ça ne se serait pas passé de la même manière. C'est un truc que je peux entendre, ça.
Oui, alors il y a quand même une spécificité dans sa chance, avec les guillemets, c'est qu'effectivement, elle a deux privilèges dans ce drame. C'est qu'elle ne se souvient de rien, donc elle n'est pas hantée par des flashs d'agression, et que c'est la police qui avait toutes les preuves.
C'est vrai.
La police, c'est la police qui l'alerte. D'habitude, une femme violée, elle va peut-être porter plainte et essayer de les convaincre que quelque chose s'est passé.
Elle le dit bien, d'ailleurs, elle n'a pas besoin de faire cette démarche-là.
Elle n'a pas à faire cette démarche, les preuves sont là. Et c'est unique, enfin quasiment unique dans l'histoire de la justice, d'avoir autant de matériel et des vidéos, pas des témoignages. Les images sont là d'une violence, d'une dégueulasserie incroyable. Et donc là, oui, c'est la chance de Gisèle d'avoir pu avoir ça. C'est aussi ça qui a créé l'unicité du procès.
Pardon, vous n'aviez pas fini,
je
dis.
Non,
pardon,
oui, je voudrais dire, parce que j'ai lu ces commentaires, elle serait la bonne victime, parce que finalement... Non, parce que c'est une joie, cette joie dont il est question, c'est une joie féroce, c'est une joie de résistance. C'est pas du tout pour dire tout va bien, finalement c'était pas si grave. C'est une joie qui dit... On nous prendra pas tout. Je suis debout, je suis sur mes jambes. Donc c'est pas du tout. C'est vraiment une joie féroce, j'ajouterais. Et la bonne victime n'existe pas.
Et on peut être aussi d'ailleurs très malheureux à l'intérieur et dégager de la joie malgré tout et essayer de faire dégager de la joie. On n'est pas obligé d'être ton sur ton avec ce qui se passe à l'intérieur.
Voilà. Également. Et les gens qui liront ce livre comprendront d'où vient cette joie. Elle vient du drame.
Absolument. Vous vouliez ajouter quelque chose et après on retourne au standard.
Non, mais la joie est une forme de résistance. Et nous, c'est vrai qu'à la Fondation des Femmes, on l'utilise beaucoup. Tous nos événements sont très joyeux. On a envie de ça. En fait, nous, on se bat pour que les femmes, elles soient heureuses. On se bat pour qu'on puisse justement être dans la joie. Il n'y a pas de bon profil de victime. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est fabuleux d'avoir pu justement montrer que les violences sexuelles ne ciblent pas que les femmes qui sont dans des conditions d'extrême vulnérabilité, que les femmes qui sont jeunes, que les femmes qui sortent en boîte et qui boivent de l'alcool, etc. Oui, on peut avoir 70 ans, être ménopausée, être de classe moyenne, etc. On est aussi la cible. Et je trouve que ça permet aussi de montrer, et c'est très important, de montrer que les violences sexuelles ciblent tout le monde, même les femmes fortes. Et d'ailleurs, surtout, beaucoup de femmes fortes, même parce que, comme M. Pellico, du coup, l'a dit dans son procès, c'est une manière de soumettre et de briser les femmes fortes. Donc, ça, c'est très important de montrer ça. Et donc, moi, je ne rejoins pas les critiques de certaines sur le fait qu'il ne fallait pas trop la mettre en avant, etc. Moi, je trouve que à partir de son histoire, on peut dire beaucoup de choses sur les violences sexuelles.
Voici Jérôme qui nous attend au standard. Bonsoir, Jérôme.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Allez-y, Jérôme.
C'est simplement que j'entendais une de vos auditrices dire qu'elle avait été frappée par son mari qui disait féministe et qui lui avait dit au bout d'un moment que ce procès n'en avait rien à foutre. Voilà, donc c'était juste pour témoigner que moi, ce procès m'a beaucoup touché. En écoutant même les... Vous voyez, je suis encore ému d'ailleurs. En écoutant les infos sur France Inter, sur France Info, il m'arrivait de pleurer en entendant les retours de ce qui avait pu être dit au tribunal. J'aurais été à Lignonnet, je pense que j'aurais été devant le tribunal avec toutes les femmes qui étaient présentes. Voilà, donc c'était pour dire que je pense qu'il y a des hommes aussi qui ont été très très touchés par cette affaire qui a fait éclater au grand jour ce que vivent beaucoup trop de femmes. Et que ce qui m'a notamment beaucoup frappé, c'est que... Moi, je garde le souvenir du jour de mon mariage qu'on s'est dit qu'on se porterait secours et assistance et que je n'arrive pas à comprendre comment un mari peut faire des choses aussi immondes.
Merci Jérôme, merci beaucoup pour votre témoignage. Elle a entendu la même chose, Judith Pérignon, à son mariage, Gisèle Pellico. Elle a même cru, et tous les deux d'ailleurs, ont cru qu'ils allaient se sauver l'un l'autre. Et c'est fou, 50 ans plus tard, ce qui se passe. Mais au début, ils se sauvent l'un l'autre.
Oui, ils se sauvent l'un l'autre. Ils viennent tous les deux, ils sortent d'une enfance difficile. Elle, par la mort de sa mère, mais elle a, comme elle dit, elle a un grand deuil, un grand chagrin en elle, mais il y a eu quand même beaucoup d'amour. Lui vient d'une famille avec un père tyrannique, c'est beaucoup plus glauque. Et ils ont l'impression de se sauver l'un l'autre. Et lui-même, d'ailleurs, en 2011, je crois, il écrit un récit de son enfance à la demande de ses enfants, et qui se conclut par le cauchemar s'arrête quand je rencontre Gisèle. Et ça, c'est comme ça qu'ils le vivent tous les deux. Et c'est pour ça que Gisèle, même cette rencontre, elle est ancienne, hein, c'est 71, mais il y a encore la trace en elle de ce serment qu'ils se sont fait de se sauver l'un l'autre. Et ils se sont mariés une deuxième fois, ils ont divorcé une première fois pour des raisons purement fiscales. Exactement. Et d'endettement, ouais. Et ils se remarient en 2007.
En 2007.
Donc, voilà.
Est-ce que vous avez été sur des terrains dont vous ne saviez pas vous-même que vous alliez aller, Judith Pérignon? Est-ce que vous avez même été étonnée, en fait? Parce qu'il y a de l'intime, il y a vraiment de l'intime dans ce livre. Est-ce que vous en avez été vous-même étonnée? Est-ce qu'au fond, c'est au fil des discussions qu'on finit par se dire des choses dont on ne savait peut-être pas soi-même qu'on allait se les dire à un moment?
Bien sûr, on se parlait très librement. On n'était pas sur le mode de l'interview, on était sur le mode de la confiance. Pendant 9 mois, on s'est vus, on s'est racontés. Et moi, quand j'écrivais, je la rappelais quand il me manquait des choses. Et Gisèle, en fait, elle avait besoin, finalement, de reprendre tout le fil de son histoire. Donc, elle me racontait beaucoup de choses et on creusait, je la relançais. Et effectivement, c'est un livre à la fois très pudique et à la fois très intime.
Absolument.
Elle n'avait pas du tout envie d'apparaître comme une femme parfaite. Donc, elle est là avec ses erreurs, enfin, ses erreurs, c'est pas des erreurs, ses faiblesses, ces moments où elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas tout compris. Elle est là dans une forme d'humanité toute simple. Et ce livre, c'est comme recoudre toute sa vie, finalement, toutes les pièces de sa vie. Et donc, oui, surprise, non, parce que ça arrivait dans le fil d'une discussion qui avait, oui, des tours intimes et chaleureux.
Et c'est vraiment, moi, j'en retiens une construction, en fait. On voit bien, entre le moment où elle apprend, donc le mois de novembre 2020, et ce qu'elle est aujourd'hui, il y a une vraie construction qui s'est faite. Et il faut juste qu'il y ait des étapes. Par exemple, quand elle s'en va, ses enfants lui disent, non, mais c'est bon, maintenant, tu viens à Paris, tu viens avec nous. Et c'est sa fille, vous racontez, enfin, elle raconte qui pète tout dans la maison, elle est dans une très grande colère, ce qu'on peut vraiment comprendre. Et elle a cette phrase très émouvante et presque enfantine, dit non, mais ne casse pas tout, il y a des trucs que je veux garder quand même.
Bien
et
sûr.
C'est un moment très frappant, en fait, dans cette histoire.
C'est un moment très frappant qui va refléter aussi comment elle et ses enfants ne réagissent pas de la même manière. Eux, ils ont absolument besoin de faire le vide, de tout effacer. Quand elle, pour s'en sortir, elle sait qu'il va falloir garder des choses. Et ce dont on parlait, cette rencontre. Parce qu'elle a dans sa tête plusieurs hommes. Elle a le monstre, bien sûr, mais elle a ce jeune homme qu'elle a rencontré à 19 ans, cet homme avec qui elle a fait des enfants. Et elle a tous ces hommes en tête et pour le restant de ses jours.
Et pour le restant de ses jours, Anne-Cécile Maillefer, rapidement.
Juste, j'aimerais souligner sur le fait qu'effectivement, chacune a ses manières de se reconstruire et que, effectivement, Caroline, dont vous parlez, oui, elle a eu une grande colère, mais en tout cas, j'aimerais qu'on ne la résume pas à ça, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, ce mot colère, en parlant de Caroline. Moi, je la connais bien. C'est extraordinaire ce que Caroline fait aujourd'hui à la tête de l'association M'endors pas. Et si nous avons aujourd'hui des changements législatifs sur la soumission chimique, sur les tests, etc., si demain les femmes vont pouvoir aller se faire tester les cheveux gratuitement, etc., c'est grâce à Caroline. Donc c'est, bien sûr, il peut y avoir une colère, mais elle est très constructive, la colère de Caroline. J'aimerais juste, voilà, remettre
aussi... Et on a le droit à la colère, par ailleurs.
On a totalement le droit à la colère. Et encore une fois, Caroline fait un travail formidable.
Et elle se parle, elle le dit aussi dans le livre, que les choses soient très très claires de ce point de vue-là. Je vous remercie chaleureusement toutes les deux, vraiment, d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à tous pour vos appels.